Bonsoir, chers amis auditeurs d'Agora Côte d'Azur. Voici Opéragora, notre émission mensuelle sur l'opéra et son monde. Depuis les compositeurs, en passant par les coulisses et quelques moments de vécu. Au micro, votre serviteur, Christian Cigarici, chef d'orchestre, directeur d'opéra, et notre nouveau réalisateur, Elliot Mauzin, à qui je souhaite bien entendu la bienvenue et une longue carrière chez Agora. Cette émission est un hommage à Giuseppe Verdi, génial compositeur et artiste engagé s'il en fut. Verdi était un immense créateur qui, entre autres caractéristique, a eu la particularité de naître dans l'Empire français de Napoléon Ier en 1813 et de mourir en Royaume d'Italie en 1901, mais toujours en restant dans les mêmes lieux, à savoir le nord de l'Italie, qui a connu donc bien des transformations géopolitiques. Il sera naturalisé français sous le nom de Joseph Fortunin Vert. Bonaparte ne plaisantait pas avec les prénoms étrangers. Interdiction formelle de choisir un prénom qui ne soit pas français pour pouvoir être naturalisé. Depuis son enfance, le jeune et modeste Verdi n'aura qu'une idée en tête. Chasser l'envahisseur français et autrichien de son pays natal pour aboutir à l'unité italienne et au sacre du roi Victor Emmanuel, et cela au moyen de messages politiques délivrés dans ses opéras, mais bien sûr par situation transposée. Tout en se servant de son génie musical, Verdi suivra le mouvement révolutionnaire amorcé par Garibaldi, le Niçois, et supervisé par Cavour dans l'espace du fameux Risorgimento, c'est-à-dire la résurrection de l'Italie. Ainsi, Verdi a été un homme politique incontournable, devenant député puis sénateur de la toute première Assemblée démocratique italienne. Il est vrai que lorsque l'on a un patronyme qui est déjà un slogan politique, il est plus facile d'entraîner les foules dans son sillage. Et si en plus on est le grand compositeur d'opéra que l'Italie attend depuis très longtemps, c'est le top. En effet, Verdi, V-E-R-D-I, était devenu le slogan politique que les révolutionnaires italiens scandaient dans les rues de la révolte face à l'occupation de l'Autriche. V comme Victor, E comme Emmanuel, R comme roi et D-I d'Italie. Victor Emmanuel, roi d'Italie. Et bien entendu, quand les Italiens faisaient de grandes processions, de grandes manifestations anti-autrichiennes et anti-françaises, puisque les deux, c'était l'Empire, hein, à cette époque-là, eh bien, simplement, ils hurlaient à tue-tête « Verdi, Verdi, Verdi !» Et ça voulait dire « Nous voulons le roi Victor Emmanuel, roi d'Italie, si on arrive à mettre tous ces envahisseurs dehors. » Verdi agite les foules et manifeste tant et si bien que pourchassé par la police, il doit s'enfuir en bateau. Puis, lorsque le climat se calme, entouré de librettistes célèbres comme Piave et Boito, puisant dans les sujets d'opéra auprès des grands écrivains tels que Victor Hugo, Alexandre Dumas ou encore Shakespeare, le succès était au rendez-vous. Comme il a vécu 88 ans, on peut distinguer une vraie progression dans ses créations que l'on peut classifier en trois parties dans sa production de 28 opéras toujours joués. Premièrement, la jeunesse des années 1835 avec des opéras comme Les Lombards et bien sûr le célébrissime Nabucco avec le célèbre Cœur des esclaves hébreux que tout le monde connaît. Deuxième partie, la maturité des années 1850, avec sa trilogie Rigoletto, La Traviata, Le Trouvère. Et enfin, troisième partie, la vieillesse à partir des années 1870, avec Aïda, Don Carlos, Othello et Falstaff, et également un requiem, une donc de ses dernières compositions, un requiem en hommage à la disparition du célèbre écrivain révolutionnaire, bien entendu qui était un ami de Verdi et qui avait écrit un livre qui faisait fureur, Mes prisons, parce qu'on l'avait emprisonné pour raison d'État, Alessandro Manzoni. Alors, il est temps maintenant de retrouver le célèbre Cœur des esclaves hébreux à l'Opéra de Berlin sous la baguette de Giuseppe Sinopoli. Cœur des esclaves hébreux.
Thank you.
monde connaît bien entendu cette partition qui a été mise un petit peu à toutes les sauces. Cette musique est sublime et elle a été reprise maintes fois dans des versions modernes. Pourquoi pas ? Verdi aurait été honoré, lui, l'homme du progrès. À ce propos, le chef qui vient de diriger l'extrait que vous avez entendu est malheureusement disparu. C'était un ami, il est disparu en dirigeant Aïda au pupitre, à Berlin. Malheureusement pour lui, très jeune. Je me souviens d'une anecdote, nous étions tous les deux à Berlin en train de manger une pizza, bien entendu, les Italiens, et il me disait, tu sais, je vais diriger Aïda, mais je me sens fatigué, je me sens très très fatigué. Et puis un mois après, à 57 ans, hélas, il mourait au pupitre. C'est une mort sublime, mais un peu trop tôt. Alors, les esclaves hébreux luttant contre la tyrannie égyptienne, c'était bien sûr la transposition des Italiens luttant contre l'envahisseur autrichien qui se partageait les provinces italiennes avec Napoléon. Message politique, s'il en fut dans un opéra. Ce sera la marque de fabrique de Verdi, compositeur et député. Un autre exemple célèbre de message politique verdien dans Rigoletto. Histoire tirée du Roi s'amuse de Victor Hugo, pièce censurée pour avoir condamné les frasques et la violence de François Ier envers le peuple. Eh bien, Verdi a transposé l'histoire à l'époque du duc de Mantoue, homme cruel et dépravé, profitant de l'invention du chloroforme pour droguer, enlever les jeunes filles et les violenter. L'humaniste et le pro-féministe Verdi a mis dans son chef-d'œuvre toute la hargne de la violence despotique d'un pouvoir. Écoutons la terrible vengeance du bouffon Rigoletto dont on vient, hélas, de violenter la fille. La jeune Gilda. Alors, ce sont deux grands interprètes de l'Opéra de Paris, Juan Carlos Morales, baryton, Rigoletto, et Alida Ferrarini Gilda. Et avec, à la baguette, et je vous promets de ne pas abuser, à la baguette, votre serviteur à l'Opéra de Paris. Écoutons.
Come on.
passons maintenant à la Traviata, ce qui en français signifie la dévoyée, la courtisane, en gros, la prostituée de luxe. Nous avons un message non plus politique, mais social. La Traviata, tirée de la Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils, est une prostituée de luxe qui arbore un magnifique camélia blanc sur son corsage. Mais lorsque la nature lui interdit une fois par mois d'avoir des rapports sexuels, cycle menstruel oblige, elle arbore alors un camélia rouge. Le message est la critique de la bourgeoisie corrompue. On sait que cela finira très mal, surtout lorsqu'on est tuberculeuse, comme Violetta la Traviata. Mais pour l'instant, grande fête, justement dans les salons de la Traviata. Portons un toast, c'est-à-dire un brindisi, à la joie, la jeunesse et l'amour, et écoutons l'incomparable Pavarotti dans le concert des trois ténors, avec bien entendu Domingo et Carreras. Vous avez entendu la passion du public, hein, chaque fois que se produisait ce morceau de bravoure magnifique et plein de joie. En arrivant maintenant aux œuvres de vieillesse, on constate que Verdi, bien assis dans l'unité italienne qui s'est réalisée finalement, est un homme reconnu et recherché, et mais il est toujours sur la brèche de l'actualité. En 1871, on ouvre en Égypte le canal de Suez, construit par notre ingénieur français Ferdinand de Lesseps. Eh bien, pour l'inaugurer, on fait appel à la création d'un opéra. C'était une autre époque. Hein. On faisait une grande architecture, un ouvrage magnifique. Eh bien, il fallait créer un grand ouvrage culturel. C'était le bon temps. On fait appel à qui ? À Verdi, bien sûr. Le gouvernement égyptien lui a commandé Aïda. Aïda, pauvre esclave, elle aussi persécutée par la puissante Amneris, fille du pharaon. Aïda est un triomphe mondial. Écoutons, aux arènes de Vérone, le fameux « Gloire à l'Égypte et à Isis », avec les fameuses trompettes. Et une petite anecdote pour ces trompettes. Elles sont très spéciales. Il y en a très peu. Donc il faut les louer. Et les louer à prix d'or, bien entendu. Et en plus, les musiciens capables d'en jouer demandent une prime importante pour en jouer correctement. Avis aux organisateurs. Et pour nous, les directeurs d'opéra, bien, on se souvient que monter Aïda, cela revient très cher. Écoutons « Gloria l'Egitto ». Thank you. voit bien dans ce magnifique moment musical que Verdi, que l'on appelait le maestro del coro, c'est-à-dire le maître du chœur, le chœur, la chorale, mais il est également il maestro del cuore, c'est-à-dire le maître du cœur, le maître du sentiment. Et c'est tellement vrai. Avec les années 1880, commence vraiment le testament verdien. Un célèbre requiem, dont j'ai déjà parlé, écrit à la mémoire d'Alessandro Manzoni. Et puis, surtout, un opéra sublime de désespoir et d'injustice tiré de Shakespeare, Othello, sur la folie du fanatisme, de la jalousie et de ses conséquences. Et puis, son dernier opéra sera une comédie, Falstaff. Très 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 curieux de terminer comme ça, pour un homme, pour un dramaturge comme Verdi, de terminer sur une comédie. C'était Verdi. Il est bien évident qu'avec un personnage comme Verdi, il faudrait plusieurs émissions pour cerner toutes les facettes de son art, pour résumer son style. On dira qu'il est resté classique en plein 19e siècle, ne s'aventurant que rarement dans le flou du romantisme. « Retournons à l'antique », disait Verdi, « ce sera un progrès ». Sa mélodie est simple, quasiment populaire, mais jamais vulgaire. La preuve, écoutons le prélude de la Traviata, on en a même fait un tango qui s'appelle « Violetta ». Écoutons.
Thank you.
L'orchestration, de même, reste volontairement basique. Mais l'on voit bien, en analysant celle du Requiem et surtout d'Othello, que lorsqu'il le veut, Verdi est également très à l'aise avec la complexité d'une palette orchestrale très élaborée et très personnelle. Verdi n'est pas intéressé par le fantastique. Ses personnages sont des humains de chair et de sang. Ne suivant pas ainsi la tendance très romantique des personnages irréels comme les elfes, les dieux et autres néréides des sagas germaniques. La lumière du théâtre verdien est a giorno, au premier degré. Ses personnages s'accommode mal des clairs obscurs et des flous artistiques. Ce n'est pas là son inspiration, bien que, dans son opéra Macbeth, d'après Shakespeare, il montre clairement que s'il veut, il peut réussir aussi dans ce genre, plutôt nordique, alors qu'il est, lui, un être complètement solaire. Il faut dire aussi que son style est plus facile à mettre en scène que les opéras fantastiques germaniques. Je me souviens à ce propos d'une conversation avec le grand metteur en scène d'opéra, Jacques Scarpeau, qui avait été longtemps directeur des arènes de Vérone et puis plus tard du théâtre de Marseille. Bien, Jacques Scarpeau officiait sur toutes les grandes scènes mondiales. On se retrouvait de temps en temps et là, nous étions en train de monter le Lohengrin de Wagner. Et je me souviens de ses paroles. « Tu vois, me dit-il, avec Verdi, pas besoin d'effets spéciaux, de fumées mystérieuses et d'apparitions d'outre-tombe. Il suffit de mettre à jour les sentiments humains. Alors qu'à ici, dans Lohengrin que nous faisons avec Wagner, il faut sans cesse composer une atmosphère fantastique, car aucun de ces personnages n'est vraiment un humain. » Au contact des grands metteurs en scène et des grands chanteurs d'opéra, le personnage de Verdi, compositeur, m'est apparu au fil des années de ma carrière de plus en plus limpide, comme un colosse dont la musique est si directe qu'il faut l'interpréter avec sobriété et éviter les coups d'éclat inutiles. Ce Verdi, à la fois révolutionnaire et mesuré, était un personnage complexe cependant, très généreux. Il a de ses propres deniers fait construire un hôpital pour les paysans de l'Italie, avec ses droits d'auteur, et aussi une maison de retraite pour les anciens artistes dans le besoin. Maison de retraite qui est toujours fonctionnelle. Bravo, Giuseppe. Adoré du public, il a eu droit à de somptueuses funérailles nationales, rappelant beaucoup celles de notre Victor Hugo, auquel il ressemble par le génie universel et par sa double vie d'artiste et d'homme politique. Bien sûr, à côté de sa gloire, il a, comme tout le monde, des déboires familiaux en particulier, la mort de sa première épouse qui a été un désastre pour son inspiration. Mais en bon paysan solide, il s'est vite reconstruit, consolé en épousant la chanteuse diva de l'époque, la Streponi, Stella, la Calas de l'époque. Et la vie est repartie avec élan et passion. Passons sur les disputes perpétuelles avec les éditeurs Ricordi et bien sûr avec les interprètes de ses opéras. Bref, les aléas du métier. Mais le puissant Giuseppe a su, avec courage, renverser tous les obstacles. Et maintenant, ses ouvrages sont joués dans le monde entier. Et c'est le regard amusé d'un vieillard qui nous délivre son dernier message. Il mondo è burla, ce qui veut dire « le monde est une farce ». Ce sont les dernières paroles de son dernier opéra, Falstaff. Mais pensons surtout à son œuvre dramatique. Finissons dans le sublime pour contrebalancer justement la farce du vieillard. Écoutons la sublime Ave Maria d'Othello, prière chantée juste avant d'être étranglé par Othello, le jaloux. Que c'est beau, mais que c'est triste. Nous avons entendu la grande, la très grande Renée Fleming. Et puis, en matière de désolation et de tristesse dans les grands airs d'opéra, eh bien, Verdi a fait encore mieux dans son opéra Don Carlo. Don Carlo à l'italienne, ou bien Don Carlos à la française. C'est l'histoire du fils de Philippe II, le fils de Charles Quint, du temps de la lutte entre Charles Quint et François Ier. Et cet air plein d'une atmosphère... Écoutez bien ça, c'est vraiment proche de la musique de cinéma actuelle, cette atmosphère qui est donnée par l'orchestre symphonique. Une atmosphère d'aube, une atmosphère d'un vieux vieillard qui dit « J'ai été obligé d'épouser pour raison d'État la Française, Élisabeth de Valois. Elle avait 15 ans et j'étais déjà si vieux. Elle ne m'a jamais aimé et je demeurerai tout seul dans la crypte du tombeau. » Écoutons cette complainte par un très grand baryton italien, baryton basse, que j'ai eu le grand plaisir et l'honneur de beaucoup diriger dans ma vie. Ferruccio Furnaretto. Ella jamai m'amò. Elle ne m'a jamais aimé. Mais nous n'allons pas nous quitter avec une lamentation. Restons dans la farce de ce monde compliqué. C'était la recette de longévité. Permettez-moi ce jeu de mots un peu personnel, un peu trivial. N'oubliez pas qu'il ne faut jamais ôter l'eau à Violetta, car elle n'a bu qu'eau trouvère. J'espère que ça vous fait rigoletto. Écoutons maintenant Don Carlos. Elliot et moi-même vous saluons et au mois prochain. Bonsoir. Écoutons.
Amen, c'est pas terre.